Técombe, Mika. Chapitre 1. Et Mika brodait toujours. Elle avait pleuré quand Jenny était partie, puis, un peu plus silencieuse, un peu plus effacée encore qu'à l'ordinaire, elle avait repris son aiguille et sa place près de la fenêtre. Les choses avaient bien changé dans la maison. Deux mariages successifs avaient mis sans dessus dessous les anciennes habitudes et brouillé les rangs. Caroline régnait toujours, mais Abdias gouvernait et s'affirmait plus qu'autrefois. Il entendait être roi et sacrificateur dans sa famille, comme disait Robert. Mika, pendant tant d'années le principal objet de la sollicitude de ses sœurs, devait maintenant se contenter du second et même du troisième rang, car le poupon passait avant elle depuis 6 mois qu'il criait, mangeait et prospérait comme un jeune sauvage. Ils étaient tous trois, Caroline, Abdias et le bébé, fort heureux sans elle. Insensiblement, elle se retira un peu à l'écart, loin du bruit, loin des petits froissements domestiques. Elle vécut comme une ombre silencieuse dans un pays de songes, où tout était vaporeux, tiède et doucement grisâtre, où l'on parlait bas avec ses pensées, où l'on brodait ses rêves en délicates arabesques sur de fragiles tissus. Et, tout absorbée dans cette vie intérieure, elle ne distinguait rien de ce qui se passait autour d'elle. Autour d'elle, il y avait 3 amoureux, et il se passait chaque jour de ces petites comédies qui semblent du dernier tragique à leurs acteurs. Mais elle ne vit rien jusqu'au moment où son cousin Robert lui apparut. Alors, elle ne vit plus que lui. Il envahit ses rêves de nuit et de jour. Robert Verdant vivait depuis 3 mois sous leur toit, au grand déplaisir d'Abdias, qui entretenait pour cet hôte des sentiments de solennelle antipathie. Mais les devoirs de famille le leur imposaient. Robert était le fils du cousin Georges, un vieil ami, un bon conseiller, personnage considérable d'ailleurs, notaire influent qu'il fallait ménager. Robert avait fait dans le courant de l'été une grave maladie. Comme sa convalescence traînait, on lui avait ordonné un changement d'air. Au commencement d'octobre, la saison étant encore belle, son père l'avait installé à la montagne chez ses cousines et il y était encore, quoique parfaitement rétabli. Il voulait, disait-il, étudier l'agriculture. Ceux qui savaient le fond des choses hochaient la tête en souriant. Le notaire et son fils, à ce qu'on assurait, s'entendaient mieux de loin que de près. C'étaient leurs interminables discussions sur tous les sujets terrestres et célestes qui avaient empêché le jeune homme de se guérir de sa fièvre à la maison, qui, peut-être même, avait causé la maladie. Robert était certainement un fils incommode pour un notaire en vue, car il professait des principes horripilants. Il les avait ramassés un peu partout, à Londres, à Paris, dans des meetings d'ouvriers, dans les journaux et les revues, et il en avait bâti un corps de système qui ne manquait pas de cohésion. C'était en qualité d'horloger qu'il avait fait son tour de France et d'Angleterre, étudiant partout la chronométrie comme une science et comme un art. Puis, tout à coup, dégoûté à la fois de sa profession et des voyages, il était revenu au logis paternel pour y entreprendre cette joute des idées nouvelles contre les vieux principes à laquelle une fièvre typhoïde avait coupé court. Robert Verdant avait une tournure d'esprit bien originale et personnelle, une grande horreur du convenu, des fictions courantes et de tous les trompe-l'œil. Il voulait voir au fond de tout, au risque de s'y laisser choir la tête la première. Il n'admettait rien sans examen. Les principes sur lesquels un homme sage règle sa conduite, il les avait pris l'un après l'autre pour les peser, les tourner et les retourner, et pour découvrir le plus souvent qu'ils sonnaient creux. Alors, il s'en était forgé d'autres, de massifs et tout d'une pièce, et d'aspect étrange, qui avaient fait pousser les hauts cris au notaire Verdant. Abdias Muller ne les avait pas non plus entrevus sans frémir. Caroline n'avait fait que rire des idées biscornues de son cousin. Quant à Mika, elle était demeurée saisie quand Robert lui avait démontré que le monde va mal, qu'il n'ira jamais mieux, qu'il a tort de s'entêter à vivre et que le plus sage serait d'en finir, soit au moyen de la dynamite, soit par l'extinction graduelle de la race humaine. L'évangéliste Dumont, qui visitait les Verdans presque chaque semaine, était aussi d'avis que le monde allait mal, mais il le croyait capable de s'améliorer et il y travaillait de tout son pouvoir, en brave homme convaincu, un peu étroit, un peu entiché de l'excellence de ses recettes. C'était un excellent garçon, d'une belle figure, régulière, blonde et froide, d'un esprit un peu lent, dont les idées allaient toujours en bataillon carré et ne savaient point s'éparpiller pour les escarmouches. Il s'appelait David Borel, il était au service d'une société pieuse et poursuivait, dans ses rares loisirs, les études de théologie qui devaient le faire admettre, un jour ou l'autre, à la consécration et au ministère. Pour le moment, outre sa mission générale dans toutes les fermes disséminées de cette montagne, il avait pris tout spécialement à cœur de réveiller la maisonnée Verdun, Abdias Mulin, qu'il trouvait, non sans raison, trop imbu de son mérite ou, comme il disait, de sa propre justice, Caroline, trop soucieuse des intérêts matériels de la ferme et du ménage, Robert Verdun, absolument égaré dans les stériles régions du raisonnement, Mika surtout, cette âme précieuse et charmante, mais passive, engourdie, endormie. Il l'exhortait avec ardeur depuis des mois, cherchant à surprendre en elle quelques symptômes encourageants. Sa conviction sincère et respectable, mais qui tenait trop peu compte des formes innombrables de l'individualité, était que toute métamorphose religieuse, pourquoi ne pas dire le mot, que toute conversion doit s'opérer selon une formule invariable comme un phénomène physique. D'abord le trouble, puis l'inquiétude, la terreur, le désespoir. Ensuite le repentir, la tristesse salutaire, puis l'apaisement et enfin la foi étaient les états graduels que toute âme devait franchir. Mika était en plein dans le premier, car, entre les exhortations hebdomadaires de l'évangéliste et les discours renversants que lui tenait chaque jour son cousin Robert, elle ne savait à quel saint se vouer. Ah, comme elle aurait souhaité d'entendre de la bouche de Robert les paroles de David Borel! Avec quel empressement elle les aurait accueillies pour se laisser doucement persuader et gagner! Mais son cœur allait d'un côté, sa conviction de l'autre. Elle en voulait à David d'avoir raison, d'avoir trop raison, d'être trop bien pensant, de marcher trop manifestement dans la voie droite et de l'obliger à voir de combien de degrés Robert s'en écartait. Elle en voulait à Robert de se rendre impossible. Elle s'irritait de son parti pris d'avoir tort, mais tout au fond, elle admirait ses paradoxes qui avaient toujours quelque chose de généreux. La logique de ses contradictions lui semblait plate. Et Mika brodait toujours sans que rien parût au dehors des perplexités qui l'agitaient. Taciturne, les yeux baissés sur son ouvrage, elle parlait peu avec David, moins encore avec Robert, mais elle les écoutait attentivement et leurs controverses faisaient un chaos dans sa pauvre petite tête. Voyait-elle seulement, au second plan, ces deux braves garçons, Ami et Jean-Jacques Fresnel, qui faisaient leur possible pour attirer son attention? Toujours sur son passage quand elle sortait de l'église, la rencontrant par hasard à la promenade, empressés à offrir leurs chevaux à Abdias au moment des labours, à faire les commissions de Caroline et de Mika quand ils descendaient au village, ses deux cousins germains, amis d'enfance et inséparables, poursuivaient silencieusement le même but, chacun d'eux imaginant que l'autre ne s'en apercevait pas. Caroline, elle, voyait bien leur petit manège et le favorisait. Elle espérait que Mika fixerait son choix sur l'un d'eux plutôt que sur l'évangéliste qui nous sermonnerait tous à mort, disait-elle. Abdias, au contraire, n'eut pas demandé mieux que de pouvoir dire un jour « Mon beau-frère, monsieur le ministre David Borel ». Mais, soupirait Caroline, bien qu'il soit là trois à l'aimer, elle ne pense qu'à celui qui ne pense pas à elle. Et c'était vrai. Robert la trouvait gentille, il lui reconnaissait le talent de savoir écouter à merveille. Jamais il ne lui était venu à l'esprit qu'elle pût sentir et penser d'une façon personnelle. Il ne s'apercevait pas qu'il la cherchait 100 fois par jour pour lui communiquer ses impressions et que ses passes d'armes avec Abdias et David Borel, même brillantes, n'avaient aucun charme pour lui si Mika en était spectatrice.